RCF. 6h30, 9h, la matinale RCF, Pierre-Hugues Dubois.
Et à 6h30, le journal, c'est avec vous, Marion Torquebio. Bonjour Marion.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
C'est aujourd'hui que commence le 80e congrès du Parti Socialiste à Marseille.
Après l'élection d'Olivier Faure comme secrétaire du PS et les tensions avec son adversaire Nicolas Mayer-Rossignol, les discussions risquent d'être houleuses. Nous y reviendrons. Alexandre Benalla, de retour devant les juges, ce proche d'Emmanuel Macron, avait été condamné pour des faits de violence lors de la manifestation du 1er mai 2018. Son procès en appel commence aujourd'hui. Et puis nous sommes le 27 janvier, journée mondiale de la mémoire de la Shoah. Nous irons dans ce journal en République tchèque pour rencontrer les derniers survivants du ghetto de Térédine.
De la reconstruction au combat des chefs, le 80e congrès du Parti Socialiste doit s'ouvrir aujourd'hui à Marseille.
Et cela devait être un congrès du nouveau départ. Après le quinquennat de François Hollande, après les 1,75% d'Anne Hidalgo à la présidentielle et après les divisions autour de l'accord de la NUPES, la maison socialiste devait repartir du bon pied. Mais jeudi dernier, l'élection du premier secrétaire du parti est venue gripper ce joli narratif. Sur fond d'accusations réciproques d'irrégularité, le sortant Olivier Faure et son adversaire Nicolas Mayer-Rossignol se disputent les résultats. Le dialogue n'est pas rompu, mais le climat est électrique et le spectre d'une nouvelle hémorragie plane au-dessus de Marseille. Ça, c'est pour les symptômes. Si on pose un diagnostic sur le cas de ce parti malade pour expliquer la crise actuelle, on lui donne une base idéologique. Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille.
Le problème de ce parti, c'est qu'il ne travaille plus depuis des années. C'est un parti qui ne réfléchit plus, qui est replié sur ses fiefs locaux. C'est un parti où il n'y a pas vraiment de débat idéologique. Or, aujourd'hui, la gauche a besoin de se reconstruire et le PS ne peut pas simplement dire qu'il est critique vis-à-vis de Hollande ou qu'il est moins à gauche que Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est pas ça, une reconstruction idéologique. Ça veut dire aujourd'hui quelle position claire sur les retraites, quel rapport au travail, quel rapport à la mondialisation, quel rapport à l'Europe. Le PS a un projet, mais ce projet il est encore incertain, et puis il faut aussi qu'il le défende. Qu'elle travaille avec les intellectuels, qu'elle travaille avec le monde associatif, avec la société civile.
Des propos recueillis par Baptiste Madinier.
Mobilisation contre la réforme des retraites.
Hier, les salariés du secteur de l'énergie se sont mobilisés dans les centrales, les raffineries, les ports et les docks contre la proposition de loi du gouvernement. Le mouvement sera en partie prolongé aujourd'hui à l'appel de la Fédération CGT des mines et de l'énergie, en grève reconductible depuis le 19 janvier et qui avait appelé à 48 heures de mobilisation. En plus de la journée de mobilisation collective du 31 janvier, la CGT des ports et des docks a appelé à 24 heures de grève additionnelle. La Fédération a également déjà annoncé qu'ils poursuivront leur action à compter de la semaine du 6 février. Avec le procès du Mediator, c'est l'une des affaires phares qui passe devant la justice en 2023. À partir d'aujourd'hui, Alexandre Benalla est de retour devant les juges. Un procès en appel de sa condamnation en 2021 pour violence. Célia Goetti, vous revenez sur un scandale qui a secoué l'Élysée.
Commence en 2018, manifestation du 1er mai, place de la Contrescarpe. Un homme casqué, brassard police au bras, brutalise deux manifestants sur une vidéo. Cet homme, c'est Alexandre Benalla. Il n'est pas policier, mais adjoint au chef du cabinet du président et proche du couple Macron. S'ensuit des mois de controverses qui entachent l'Élysée, qui avoue quelques mois plus tard avoir été au courant des actions de Benalla. Des images de l'homme avec une arme lors de l'élection présidentielle de 2017 sont retrouvées. On apprend qu'il n'a pas rendu ses passeports diplomatiques. Au final, c'est trois affaires en une. Alexandre Benalla est condamné en octobre dernier en première instance à 3 ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique, une interdiction d'occuper un emploi public et une interdiction de porter une arme. Le motif, faux et usage public sans droit d'une insigne, entre autres. Aujourd'hui, c'est son procès en appel qui s'ouvre. L'homme de 31 ans nie les faits et dit avoir agi par réflexe citoyen.
6h35, en Ukraine, de nouveaux bombardements meurtriers.
Au lendemain de la décision de l'Allemagne et des États-Unis de livrer de nouveaux chars lourds à l'Ukraine, l'armée russe a décidé de riposter sur le terrain. 11 morts et 11 blessés sont à déplorer sur la journée d'hier. Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé à fournir ses blindés le plus vite possible car les troupes russes, en supériorité numérique selon lui, intensifiaient les combats dans l'est de l'Ukraine. 10 Palestiniens ont été tués lors d'opérations israéliennes jeudi et vendredi en Cisjordanie et à Gaza. Il s'agit de la séquence la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la flambée de violence entre l'armée israélienne et le djihad islamique à Gaza en août 2022. Et en Espagne, suite à l'attaque meurtrière dans deux églises à Algeciras en Andalousie mercredi soir, une enquête pour terrorisme a été ouverte. Les derniers attentats perpétrés en Espagne remontent à août 2017 lorsqu'une cellule djihadiste avait provoqué la mort de 16 personnes. Des attaques qui entretiennent un mythe chez les islamistes radicaux, tout en donnant du grain à moudre à l'extrême droite espagnole. Les explications de Benoît Pellistrandi, historien et spécialiste de l'Espagne contemporaine.
Il y a aussi toute une sorte d'imaginaire, d'ordre du fantasme, d'abord chez les militants islamistes qui rêvent d'une reconquête musulmane de l'Espagne, puisque l'Espagne a été un moment musulmane entre le 8e et le 15e siècle. La communauté catholique est extrêmement inquiète, non pas tant qu'elle a peur d'une attaque anti-catholique, mais parce que c'est un coup porté à ce que les Espagnols appellent la convivencia, c'est-à-dire le fait de vivre ensemble. Ça alimente aussi un contre-mythe, notamment du côté de l'extrême droite radicale espagnole, dit « nous sommes en première ligne face aux ambitions de l'islam ». Il existe le parti radical Vox, qui est le premier à utiliser l'argument de l'attentat pour mobiliser le danger islamiste, la mise en cause de l'identité catholique de l'Espagne et le danger que représente une immigration non contrôlée.
Le gouvernement espagnol a assuré que l'auteur présumé de l'attaque, un Marocain de 25 ans, n'était pas sous surveillance pour radicalisation.
Deux jours pour parler du numérique dans l'éducation nationale.
Pape Ndiaye est en tournée dans la Vienne. Visite de l'espace pédagogique du Futuroscope, du CNED et de collèges et lycées avec des projets pédagogiques liés au numérique. Le ministre parle large, autant des outils numériques éducatifs que l'éducation au numérique. Le sujet est controversé mais impossible de passer à côté pour Muriel Upstein, enseignante chercheuse en sciences de l'éducation, parce que...
un enjeu dans la société. On ne peut pas former les citoyens du monde de demain et qu'ils ne sachent pas utiliser un ordinateur. En tout cas, si on les forme et qu'on ne leur permet pas d'accéder à ça, ils ont encore moins de compréhension du monde dans lequel ils vivent. On est en train de se retrouver avec le numérique, avec les mêmes difficultés qu'on a avec les statistiques. Les gens ne maîtrisent pas l'outil. Et moins ils le maîtrisent, plus ils sont dans la croyance. Et du coup, les stats, ça devient soit, bah, ça devient comme Dieu, comme la religion, c'est une croyance. On leur fait dire ce qu'on veut, etc. C'est une croyance tant qu'on ne la connaît pas. Et là, avec le numérique, en termes d'environnement, en termes de technologie, en termes de tout, on est dans cette croyance. C'est ça qui est grave pour la démocratie, qui est grave pour la société, et c'est pour ça que l'éducation nationale est obligée de s'en emparer. C'est l'environnement actuel de la société, qu'on le déplore ou qu'on en soit super heureux, hein. Et donc il faut réagir à partir de là.
Aujourd'hui, 27 janvier, c'est la journée mondiale de l'Holocauste.
Et dans ce journal, nous allons en République tchèque pour cette journée de la mémoire. Le 15 mai 1941, l'artiste polonais Zelman Brager est interné au camp de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Passé par Auschwitz, il est libéré le 8 mai 1945 au ghetto de Terezín dans l'actuelle République tchèque. Pour la journée de la mémoire de la Shoah, Gabriel Laprat s'est rendu à Terezenstadt, à 70 km au nord de Prague. Reportage.
À l'entrée du ghetto, un slogan allemand s'affiche en grand « Arbeit macht frei », le travail rend libre. Une expression poignante pour Guy Donlev, 87 ans, survivant de l'Holocauste et de Theresienstadt.
C'est l'un des exemples qui représente le mieux les atrocités allemandes. Que signifie « Arbeit macht frei » ? Comment le travail peut-il rendre libre ? Vous savez comment ? En vous tuant. Parce que quand vous êtes mort, vous êtes libre. C'est la seule liberté.
Comme Guy Donlev, plus de 140 000 juifs et opposants politiques sont emprisonnés de 1941 à 1945 dans la forteresse militaire de Terezín. Si le ghetto n'est qu'un lieu de détention et non d'extermination, les conditions de vie y sont difficiles, comme en témoigne notre guide.
Nous savons qu'environ à partir de 1943, 40 personnes pouvaient vivre dans ces cellules, dans ces pièces. Mais plus tard, on pouvait avoir jusqu'à 100 personnes dans la même pièce, dans la même cellule.
Aujourd'hui, Guy Donlev se bat pour faire perdurer le devoir de mémoire auprès des jeunes et sensibilise pour ne pas reproduire les erreurs du passé.
Ne laissez jamais une chose pareille se reproduire. Pas seulement contre les Juifs, mais contre n'importe qui dans le monde entier.
Un reportage de Gabrielle Laprade. Des profits plus élevés que ceux qu'elles attendaient. Les sociétés d'autoroutes comme Vinci ou Eiffage pourraient atteindre entre 30 et 35 milliards d'euros de profits d'ici la fin de leur contrat en 2036. C'est le résultat d'un rapport de l'Autorité de régulation des transports publié hier. L'organisme regrette que les contrats de l'État avec les concessions d'autoroutes soient renouvelés sans appel d'offres. Et cela dans un contexte d'augmentation des tarifs de péage de 4,75% le 1er février et qui devrait également augmenter les profits des entreprises d'autoroutes. Pour l'Autorité de régulation des transports, l'État doit donc sérieusement réfléchir à de nouveaux modèles de contrats pour ses autoroutes.
Merci beaucoup Marion Torquebio, on vous retrouve à 7h30 pour un nouveau journal et nous, on jette un œil du côté de la météo.